Donc jeudi dernier, je suis allé à Amiens pour installer ma fille à l'université. Je ne sais pas si vous connaissez Amiens. Belle ville, hein? Et surtout, il y a le quartier de Saint-Leu. C'est vraiment magnifique. C'est comme une petite... C'est comme Bruges, hein? Petite Venise, là, avec les vieilles maisons. C'est vraiment très, très beau. Et surtout, hein? C'est la cathédrale d'Amiens. C'était émerveillé. Hein? Et ça a pris 300 ans à construire. Vous imaginez quelqu'un, c'est 4-5 générations pour faire tout ça. Et là, vous voyez toutes ces pierres et tout ça. Mais c'est immense aussi. On est dans la grande place. Une immense église comme ça. Et ça a connu des années, là, 300 années. Et depuis, hein, ça a été terminé vers... 15-16e siècle. Et après, ça fait quoi, 400 ans, 500 ans, et tout le vent, toute la pluie, la grêle qui est tombée, le soleil qui a brûlé toutes ces pierres, ça a traversé le temps, cette église, ça a vraiment traversé le temps. Et donc, je pensais à l'époque, j'imagine quelqu'un qui était dans son champ, un paysan qui travaillait. Bon, sans doute, il était illettré à l'époque. Hein. Il y avait très peu de gens qui avaient de l'éducation. Et même, on ne faisait pas les messes dans la langue du peuple. Hein. C'était en latin. Et donc, le gars, il avait une vie très dure. Hein. Il ne vivait pas jusqu'à 80 ans comme aujourd'hui. Hein. Les gens, ils mouraient jeunes. La vie était dure. C'était une vie de souffrance et tout ça. Et j'imagine le dimanche matin, comme un gars comme ça, il arrive dans cette église, il voit les vitraux, il voit les grandes statues, il voit les images de tous les saints, de Jésus avec la lumière qui sort et tout ça, d'oreilles et tout ça. Ça a dû être comme s'il entrait au ciel. Mais pour moi aujourd'hui, avec mes yeux vidéo, avec la télé, avec le 4G et tout ça, ça fait très ringard maintenant quand je vais dans une église là, comme ça. Ça fait, je ne suis pas émerveillé par « Oh, regarde la lumière !» Mais aussi, je suis choqué quelquefois par toute l'hégémonie, la domination de tous ces hommes. Et c'est quand même des signes de richesse, cette religion organisée qui dominait sur le pauvre peuple. Mais quand même, on est entre deux chaises, parce qu'il y a la beauté, il y a aussi tous ces jeux de puissance. Mais quand même. Je dis, peut-être aujourd'hui, il n'y avait pas le même nombre de personnes qui venaient prier là-dedans, avec le même émerveillement. Et donc, je devais attendre le soir pour être émerveillé. Parce que le soir, j'étais vraiment émerveillé. Vous savez pourquoi? Si? Parce qu'ils ont un jeu de lumière devant. Est-ce que les gens ont déjà vu ça? Il faut y aller. Hein? Et bon, c'est juste, ça finit fin septembre, je pense. Mais... devant à 10h le soir, quand il faisait nuit, là, il projetait des lumières, des jeux vidéo. Waouh! C'était incroyable comment la lumière peut transfigurer et changer une vieille édifice. Incroyable! J'étais là, j'étais dans l'émerveillement. On était là avec peut-être 200-300 personnes. On voit, il y a les nouveaux pèlerins quand même. Hein. Quand c'est un peu modernisé comme ça, il y avait beaucoup du monde. On était là devant cette église comme si on attendait le retour de Jésus. On était tous là à 10 heures. Et tout d'un coup, boum, j'étais transporté dans un autre monde. Là, ce qu'ils arrivent à faire avec la lumière transforme tout. Et c'est ça un peu mon message ce matin. La lumière transforme tout. Pas la lumière sur un vieux bâtiment, même si c'est beau, mais la lumière qu'on accueille dans notre cœur. La lumière transforme tout. Tout est possible. Un cœur transformé par la lumière. Et comme je dis, ce matin, je ne parle pas de la pierre, mais je parle de nos cœurs. Et je pense que Dieu veut faire un son et lumière. Il veut faire un son et lumière sur votre cœur ce matin. Amen. faut juste dire, voilà, Seigneur, j'expose mon cœur. Peut-être j'ai connu des pluies, des soleils, le vent a soufflé, peut-être ça s'est écroulé un peu avec le temps. Mais voilà, Seigneur, transforme mon cœur ce matin par ta lumière. Vous savez, Dieu, il utilise toujours la lumière pour changer des choses. Et donc, voilà, tu sais, au début de la création même, Dieu a fait un petit jeu de sang et lumière. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait le chaos. Il n'y avait rien. C'était vide. Le tohu-bohu, on dit en hébreu. Il y avait informe et vide. Et quelquefois, nos vies, on se lève un lundi matin, un mardi matin, et notre cœur est informe et vide. Et c'est pour ça que les gens, ils se dépriment. Et même, ils ont des tendances suicidaires quelquefois. Parce qu'il dit, il n'y a pas de but. Tout est vide. Il n'y a pas de sens. Et c'est ça où Dieu, il a vu. Voilà cette terre informe et vide. Et même quand c'est comme ça, il n'y a pas la lumière. Il n'y a que le mensonge, il n'y a que l'erreur. Et il dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oh, informe, vide, ténébreux. Mais il y a des vies comme ça. Il y a des cœurs comme ça. Où on n'ouvre jamais des rideaux. On vit dans l'obscurité. On vit dans la déprime, le découragement, jour après jour après jour. Et après, on s'habitue à l'obscurité. On s'habitue à vivre comme ça. Mais Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Là, c'est une bonne nouvelle. Dieu, ça peine son cœur de voir l'humanité ne vivre pas à la hauteur de son cadeau d'amour. Ça attriste le Saint-Esprit de voir les gens qui ne vivent pas à la hauteur de la gloire qui est en eux. Vous savez, vous êtes faits pour être dans la lumière. Vous êtes des créatures de lumière. Et donc Dieu, il n'a pas laissé la terre informe et vide et couverte de ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu était là, il planait là. Et l'Esprit de Dieu est toujours là, même dans les pires moments, même au cœur des ténèbres. Le Saint-Esprit est là. Et même ce matin, même lundi matin, mardi matin, le Saint-Esprit est là. Il veut rentrer. Il est là. Il est là. Il se mouve au-dessus des eaux. Ah, il dit, allez, donne-moi la place dans votre cœur. Et après, il y a le Saint-Esprit, mais aussi il y a la parole. Dieu dit. Dieu parle. Dieu n'est pas muet. Dieu, il parle. Et il parle par la parole. Il parle, j'espère, au travers de ma bouche ce matin. Imparfaitement, bien sûr. Mais Dieu, il parle au travers de sa création. Il nous parle quand on voit un lever du soleil, quand on voit la beauté d'un enfant, quand on voit ces choses. Dieu parle. Et c'est à nous d'écouter cette parole. Parce que Dieu, quand il parle, il ne dit que vérité. Et quand Dieu parle, cette essence de vérité s'exprime comme lumière. C'est ça, la vérité égale lumière. C'est une lumière spirituelle. Une bonne parole, c'est une lumière spirituelle. Et une mauvaise parole, c'est comme une obscurité spirituelle. Quelqu'un qui te dit un mensonge, quelqu'un qui te dit « t'es nul », ça c'est un mensonge, personne n'est nul. Mais quelqu'un qui le dit ça, c'est jeter de l'obscurité sur toi par une parole mensongère qui te couvre d'obscurité. Mais la vérité, l'évangile, Dieu est amour. Jésus-Christ te pardonne. Jésus-Christ te valorise. Ça, c'est la lumière. Et c'est pour ça qu'on partage la parole d'évangile. Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Première parole de Dieu, que la lumière soit. Il commence le sang et lumière. Il dit, voilà, nous, il y avait des pannes là, quand on était là, on était convoqués à 10 heures. Il ne fait pas toujours très chaud à Amiens à 10 heures le soir, même pendant l'été. Non, là, on était là, assis par terre quand même, et on attendait. Et moi, je suis très impatient. Sylviane m'a dit, elle me dit, oh mais Robert, ça va commencer à 10 heures moins le quart, il faut être là à 9h30 parce qu'il faut avoir une bonne place. Non, là, c'est à 9h30. Moi, je déteste attendre. Et non, là, 10 heures moins le quart. Je dis, bon, mais tu t'es trompé. Tu vois, c'est quand même 10 heures. Et alors, une demi-heure. 10 heures. Rien. Rien. Oh, et on voit les gens qui trafiquent. Je dis, oh, 10h05, 10h10. Je dis, oh, je vais partir. J'en ai marre. 10h15. Oh, 10h20. Ah, ça a commencé. J'étais soulagé. Ça avait, j'avais oublié ma frustration. Mais c'est comme ça quelquefois dans la vie. C'est comme ça dans la vie. On attend la lumière. Ne partez pas. La lumière va venir. Ne partez pas. La lumière va venir. Et Dieu, il dit, au milieu de ce chaos, au milieu de l'horreur, au milieu de la déprime, que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. Mais pas juste à l'extérieur, ici. Ici, et la lumière fut ici dans mon cœur. Et Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière est bonne. La lumière est bonne. Et après, on peut aussi lire dans 1 Jean 1,5 qui dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons » voilà, qu'est-ce que c'est cette bonne nouvelle que nous annonçons ? C'est que Dieu est lumière ! Alléluia ! C'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. C'est beau ça. C'est, il n'y a pas d'obscurité. La météo du ciel, pas d'obscurité, pas de petits nuages qui couvrent la gloire de Dieu. Il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Et donc cette lumière a pris un visage. Cette lumière, cette beauté, cette vérité, cette vie, cette vitalité, cette ouverture a pris un visage. Et on voit ce visage dans Jean 8, 12, hein, l'évangile de Jean chapitre 8, 12. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Waouh! Encore, quand Jésus est venu dans le monde, Dieu a poussé le bouton pour un vrai son et lumière encore pour l'humanité. Et il a dit, voilà, j'ai déjà créé le monde avec la lumière, mais je vais recréer l'humanité. Je vais créer, je vais refaire le cœur de l'homme, parce que le cœur de l'homme a été abîmé par le péché. Et donc, je vais recréer le cœur de l'homme. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Soit il est fou, hein, ce Jésus, de dire ça. Si quelqu'un, je suis la lumière du monde. Waouh! Mais Jésus était tout sauf faux. Soit il était un menteur. Non, il n'était pas un menteur, Jésus. Donc soit il est fou, soit c'est un menteur, ou soit c'est vrai que Jésus est vraiment la lumière du monde. Et c'est pour ça que nous l'adorons. Parce que Dieu est lumière et Dieu, lumière du monde, Jésus. Jésus, ça fait, c'est une preuve de la Trinité. Dieu, un seul Dieu, mais qui s'exprime. Dieu l'Esprit, Dieu Jésus, Dieu le Père. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, d'accord, c'est tout simple. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, d'accord. Si quelqu'un te montre la lumière et dit, allez, suivez-moi. Et tu dis, non, je préfère marcher moi-même dans l'obscurité, mais tant pis pour toi quand tu tombes dans un trou. Non, mais il va, parce qu'il est gentil, il va te chercher. Il va dire, oh là là, tu sais, j'ai une belle destination pour toi. J'ai une belle destination. On va au mariage là. Tu vas devenir mon épouse. Tu seras un être tellement glorieux. Tu seras un être de lumière. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus de larmes ni de cris. Allons, vivons ensemble dans cette lumière. Et toi, tu dis, non, je ne veux pas te suivre, moi je préfère là, tu vois, il y a un hamburger là, frites, mayonnaise, mais c'est dans l'obscurité. Oh, mais quand même, il dit, mais n'abandonne pas ta destinée pour des frites et les mayonnaises et tout ça, avec toutes ces sauces. Tu sais, je ne sais pas, les gens, ils troquent le ciel pour des banalités. Moi, quelquefois, je suis étonné de moi-même. Combien je peux être bête. Combien je peux... Tu sais, c'est comme Ésaü, il avait faim un jour, il avait le droit d'être le chef de la famille. Et son frère a dit, allez, vends-moi ton droit d'aîné avec un petit bol de soupe à lentilles. Oh. Et il a fait. Parce qu'il avait faim, il dit, oh, satisfaire ses besoins du moment pour un rien. Et on est séduit, quelquefois c'est bête de le faire. Bien sûr, il y a le pardon. Quand tu as pris un mauvais chemin, Dieu va te chercher, il dit, non, tu es dans l'obscurité de nouveau, ça ne te va pas. Allez, reviens, reviens. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Moi, je veux vivre dans la lumière de la vie. Et en Éphésiens aussi, Dieu parle encore d'un sang et lumière. Un sang et lumière. Il dit, Éphésiens chapitre 1, 17, il dit que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est pas mal ça. Parce que finalement, moi je peux parler, je peux dire tout ce que je veux, mais ça vient de vous. Il faut que vous ayez vous-même une sagesse et une révélation. Que vous voyez. Oh, mais ça vient de Dieu. On peut dire, mais Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. Ça va vous aider à réussir votre vie. C'est ce que Paul a prié pour l'Église. Seigneur, donne à cette Église un esprit de sagesse et de révélation. Mais pourquoi? Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Parce que la lumière dévoile quelque chose toujours. Et vous savez, quand vous avez la lumière, ça vous montre Jésus-Christ. Il n'est pas juste un être historique. C'est tout le monde en France connaît Jésus. Voilà, c'est le baba cool en sandales, l'embarras, voilà, il faisait du bien, gentil Jésus, tu vois. Crucifié, tout blême, voilà, tout le temps, crucifié, crucifié, jamais ressuscité, hein, mais bon. Et non, moi, je ne veux pas juste connaître un Jésus historique, moi. Ça, c'est facile, tout le monde connaît ça, c'est juste ma tête, là. Bon, Jésus est. C'est, on peut débattre qui est Jésus, tous ces trucs-là. Il y a une place pour ça. Je nie pas l'intelligence. Mais pour vraiment vivre dans la lumière, pour que ça soit efficace, il faut connaître Jésus avec le cœur. Il faut connaître Jésus avec le cœur. Et pas juste un petit Jésus bébé dans les mains de Marie. Pas juste un pauvre type constamment cloué. Allez, descends. Constamment cloué. Mais de connaître celui qui est ressuscité aujourd'hui, qui est vivant. De connaître, avoir une relation avec celui qui est lumière, qui est pureté, qui est beauté, qui est amour. Waouh, ça c'est tout un projet, tout un beau projet. Et là, il faut un esprit de sagesse et de révélation. Il continue. Qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Waouh! Quelle est l'espérance de vie? Quelle est l'espérance de ta vie? Est-ce que tu as une espérance pour ta vie? Et moi, je dirais pas juste une espérance de vivre jusqu'à 80 ans, mais une espérance de dire qu'est-ce que je serai dans l'éternité? Parce que là, je vais rencontrer Rémi quand il est comme un être transfiguré de lumière. On va vivre l'éternité ensemble. Et il va continuer de grandir. Tout ce qui est les limites de la terre, les échecs, les choses, ça va tout partir. Et on va émerger comme des papillons. On va émerger là. On va voler dans l'éternité. Nous serons des êtres, mais incroyables. Et c'est ça le Dieu, ce monde, cette vie ici, ce n'est qu'une formation, une sorte d'épreuve pour atteindre la grandeur d'enfant de Dieu. Et que Dieu illumine notre cœur pour qu'on vit chaque jour dans l'espérance. Parce que la lumière communique espérance. La lumière de l'espérance dans mon cœur qui l'illumine. Et donc que ce matin encore, même pendant le message, pendant que je parle, je dis, mais Seigneur, que ces paroles ouvrent, que vous sentiez même la lumière qui entre dans votre cœur. Parole plus esprit égale lumière. Parole inspirée, révélation, lumière, vérité de l'Évangile, vérité de Jésus. Que nous vivions tous une expérience d'illumination. Vous savez, juste d'autres trucs à dire. Quand j'étais devant cette vieille cathédrale, je disais, la lumière vivifie ceux qui étaient morts et usés par le temps. Ah. J'aurais jamais cru que qu'une vieille cathédrale comme ça pouvait être si beau, si embellie. Et quelquefois, pour nos propres vies, on est si usé par le temps. On est si usé par des mauvaises expériences. Mais vous savez, je veux vous dire ce matin, vous pourrez être embelli. Et même une vieille pierre un peu cassée, c'est quand même embelli. Même vos cassures, même vos échecs, Dieu peut embellir tout ça. Même l'handicap, même le truc dont tu as honte. Tu dis, voilà, j'ai honte de ça dans ma vie. Avec la lumière de Jésus, même ça, même cette souffrance, même là où tu as boité toute ta vie, ça peut être une sorte d'emblème de gloire quand on s'est touché par la lumière de l'amour et la lumière de la grâce. La lumière vivifie ceux qui étaient morts et usés par le temps. Après, une deuxième chose, ça donne de la couleur. Tout d'un coup, c'était une pierre blanche et tout d'un coup, paf, c'était incroyable, les couleurs. J'ai vu l'arc-en-ciel, c'était magnifique. Et Dieu, il veut mettre un peu de couleur dans votre vie, un peu de couleur dans votre christianisme. Moi, j'aime bien Van Gogh. Et on voit toutes ces... C'était le gâteau. C'est un chrétien, Van Gogh. Vraiment un vrai chrétien. Il a été rejeté par l'Église à l'époque. Mais c'était un vrai chrétien. Quand je lisais ses lettres, j'ai étudié un peu Van Gogh. Et j'étais choqué de voir combien il avait cet esprit de sagesse et de révélation. Et lui, il voulait que son art soit une spiritualité, soit une adoration pour Dieu. Et quand vous voyez toutes ces astres qu'il peint et les soleils, il voulait peindre la lumière. Et il voulait peindre, il disait, je veux peindre Dieu, la spiritualité, comme ça. Et tu vois que Dieu veut te donner une créativité. Il veut mettre un peu de couleur dans votre cœur. C'est la joie. La joie. Et vous connaissez Joseph, l'histoire de Joseph, que son père l'aimait. Il avait 17 ans. Et son père l'aimait. Et parce qu'il l'aimait, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait un cadeau. Vous connaissez le cadeau qu'il a fait? Oui, une tunique. Une tunique multicolore, bigarrée, on dit dans la traduction. Et une tunique bigarrée, multicolore. Et ça, c'est la mort du père. Il ne veut pas que tu sois vêtu, que ton corps, que ton cœur soit vêtu en gris et avec une sorte de fausse pudeur religieuse. C'est quelquefois... C'est toujours ici, en boutant tout, tellement serré. Paf! Allez, que Dieu, qu'on vive une vie de couleur. Qu'on vive une vie de couleur. Qu'il y ait une créativité. Tu vois, ce matin, la vague. Il a dit Elena avec son violon. Léona, tu sais. Mais c'est une créativité. Ça fait beau de voir les gens qui savent faire. On n'a pas besoin d'être des experts, d'être perfectionnistes, mais de faire ce qu'on sait faire. C'est ça aussi l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de donner une créativité à nos cœurs, de nous faire vivre. Amen, amen, que Dieu nous donne un peu de couleur. Voilà, la musique, il y avait la musique aussi, c'était magnifique. Il y avait la musique avec la lumière. Et Dieu, il veut mettre un chant nouveau d'espérance dans notre cœur. Tu sais, il y a un psaume, le psaume 40 et versets 2 à 4, psaume 40, 2 à 4. Et c'est le roi David qui crie ça un jour. Il a pas mal de problèmes, le roi David. Il est loin d'avoir une vie exemplaire. Tu sais, si tu veux voir un gars qui a toujours fait du bien, qui n'a jamais péché, non, tu ne faut pas chercher chez David. Il était un meurtrier, il était un adultère, il a tout. Mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. Oh, mais on dit, mais comment est-ce que David, avec tout ce qu'il a fait dans la vie, il est un homme selon le cœur de Dieu? C'est parce qu'il savait se repentir, il savait s'humilier, et il savait embrasser la grâce de Dieu. Et donc dans ce psaume 40, et peut-être c'est une prière pour quelqu'un ce matin, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. » Merci Seigneur. Il s'incline toujours vers toi. Il ne va jamais t'abandonner. Il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du chaos. de manteau ou de bohue. Du fond de la boue. Quelquefois, tu es dans la boue, pour ne pas dire un mot plus cru, mais au fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc. Allez, au lieu de couler, trouvez quelque chose de solide, la vérité, la lumière, Jésus-Christ. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, ce chant d'espérance. Une louange à notre Dieu. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Alléluia. Vous savez, quand j'étais devant la cathédrale, j'étais aussi transporté dans une nouvelle dimension. La lumière de Dieu dans votre cœur vous transporte dans une nouvelle dimension. J'ai dit, mince, je suis à Amiens, et je suis devant cette cathédrale, mais avec toute cette lumière, c'est comme si j'étais transporté. Et vous savez, l'adoration vous transporte. Ce matin, j'étais là. Et c'est vrai, je suis à Wavrin. Il y a la braderie de Lille, il y a un plafond blanc, il y a des lumières, j'ai mon téléphone portable, j'ai mon iPad, j'ai une voiture, toutes ces réalités. Mais quand même, mon cœur peut toucher le ciel. Vous expérimentez ça de temps en temps, quand même. Vous expérimentez la beauté de l'adoration quand vous entrez dans une autre dimension. Et ça, c'est grâce à la lumière dans le cœur. C'est grâce à la lumière qui fait appel à la lumière. Et même votre visage sera transfiguré. Plus vous entrez dans cette autre dimension. Jésus, un jour, vous connaissez l'histoire de la transfiguration. Il a dit, voilà, pour un petit moment, je vais vraiment faire un petit moment de louange, d'accord? Et vous pouvez m'accompagner. Et là, il lâche prise. Il dit, voilà, je vais vraiment louer Dieu. Et paf, tout d'un coup, il est transfiguré. Il commence à briller. Il commence à briller. Et je dirais, quand l'Église commence à briller dans l'adoration, les gens viendraient. Hein, c'est sûr que quand les gens voient dans tes yeux, dans ta peau même, je suis sûr que je brille quelquefois. Il faut demander à Sylviane. Mais je suis sûr que je brille. Il faut éteindre des lumières pour le voir vraiment. Mais je suis sûr que je brille. Je suis sûr que la grâce brille sur moi, sur mon visage. Quelquefois, je suis tellement saisi par Dieu. Et je ne suis plus Robert Rive, l'ordinaire, le langlais, là, que ta. Je suis un enfant de lumière. Ça, c'est les prémices du ciel. Et nous pouvons vivre ça. Pourquoi accepter juste d'être médiocre quand tu peux être transporté dans une nouvelle dimension? Jésus, quand il parlait à la femme samaritaine, hein, plus ordinaire, tu meurs. Hein. Cette femme, c'est comme une feuilleton à la télé, la femme samaritaine. Combien de maris tu as eu? Oh, ouais, j'ai eu 5 maris. Tu vois, et je suis déjà avec un gars, mais ce n'est pas mon mari. Et tout ça. Et Jésus, il entre dans toute cette réalité de vie, mais il pousse le bouton sur elle. Et il dit, voilà, maintenant, je fais un sang et lumière sur ta vie. Et il dit ceci, parce que cette dame, elle veut parler religion. Ouais, il faut louer Dieu à Jérusalem, ou sur le mont Gazarim, en Samarie. C'est sur quelle montagne? Est-ce qu'il faut être protestant, catho, gréco-orthodoxe, baptiste, pentecôtiste? C'est les gens, ils veulent toujours parler religion. Discuter. Et Dieu a dit non, c'est pas une discussion. C'est une transfiguration que je cherche. C'est une transfiguration, ce n'est pas une discussion théologique. Je cherche une transfiguration. Et il lui a dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, vous voulez être un vrai adorateur? S'il dit les vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a les faux adorateurs. Il y a les religieux, il y a les gens qui vont boum, 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 pendant tous les trucs, mais leur cœur est froid comme la pierre. Et il dit, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Esprit, vérité égale lumière. En esprit et vérité. C'est ça ce que Dieu veut. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Et Dieu, il demande dimanche matin, il demande de l'esprit et de la vérité. Voilà, on n'a pas besoin d'être Superman, mais il veut la vérité et il veut l'esprit. Alléluia. La lumière, c'est là aussi où c'est fantastique. Devant la lumière, l'ordinaire devient extraordinaire. Devant la lumière, l'ordinaire devient extraordinaire. Et après, encore une citation de l'épître de Jean 3, chapitre 3, verset 2. Bien aimé. C'est magnifique quand Jean nous adresse. Moi, j'aurais aimé rencontrer l'apôtre Jean. Parce qu'il est comme un grand grand-père. Et il est là, rempli d'amour, bien aimé. Et tu sais, lui, il avait mis son oreille sur la poitrine de Jésus, tu vois. Et donc, je pense que là, il y avait une sorte d'osmose à ce moment-là, où vraiment il a été imprégné, il y avait une double onction d'amour, l'apôtre Jean. Et quand il parle aux chrétiens, il est toujours bien aimé. Il parle beaucoup d'amour, l'apôtre Jean. Et il dit ceci, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Maintenant, assis, tu es enfant de Dieu. C'est magnifique ça, enfant de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Oh, qu'est-ce que tu seras? C'est comme je dis à René, qu'est-ce qu'il sera dans le ciel? Jérôme, qu'est-ce qu'elle sera? Je connais déjà un petit peu comment ils seront, parce que je vois quelquefois la gloire sur leur vie et je dis ça sera puissant 100, multiplié, ça serait magnifique, mais qu'est-ce que je serai? On n'est pas, tu sais, cette vie de 90 ans, 80 ans, c'est pas que ça. Nous serons pour l'éternité des êtres merveilleux. Et quelquefois, il y a des choses que nous ne comprenons pas, une souffrance, une deuil, une injustice, qu'on doit vivre des choses. Mais ces choses-là nous forment pour l'éternité. Vous savez, quand Paul, une fois, il y avait une écharde. Ce n'était pas une écharde physique, mais c'était une maladie ou un problème spirituel, on ne sait pas. Mais il y avait une écharde, peut-être un problème des yeux, on dit ça traditionnellement. Le grand saint Paul, là, il a prié, il dit, mais Seigneur, enlève cette écharde de ma chair. 3 fois il a prié, il a persévéré 3 fois. Et il n'a pas eu de réponse. Oh, est-ce que Dieu est injuste? Oh, il ne m'a pas guéri, oh, je suis en rébellion maintenant. Non, parce que Dieu lui a dit, tu sais, tu vas devenir plus fort, Paul. Par cette épreuve. Parce que c'est dans la faiblesse. Tu vas apprendre à vaincre dans la faiblesse. Et vous imaginez comment Paul, pas juste dans ce monde, mais comment cette expérience l'a transfiguré, l'a embelli, pour que dans le ciel, pouf, il y a encore 1000 fois plus de lumière. Et donc ne râle pas trop. Ne limite pas Dieu. Oh, Dieu est méchant, il n'a pas, pourquoi ça? Non, mais Dieu, il voit une perspective d'éternité quand il te voit. Et il sait exactement ce qu'il te faut pour te préparer pour être ce que tu seras. Ce que tu seras dans le ciel. Parce qu'on n'est pas juste Wavrin, l'église, ici. Mais il y a une église céleste, une épouse qui se prépare. Waouh! Qu'est-ce que nous. Quelquefois, ça serait bien d'imaginer ça. S'il y a les artistes, je vais dire, mais allez, faites une sorte de selfie. Ça serait bien d'avoir le selfie céleste. Oh, tu peux me prendre un selfie. Je dis, mais quand je serai au ciel, je vous envoie un selfie. Mais ça va brûler vos yeux. Hein. On n'a pas encore inventé l'ordinateur ni le téléphone qui peut faire un selfie céleste. Mais tac, selfie céleste, tac. Allez, les Chinois, ils vont inventer un truc comme ça. Non, mais ça... L'ordinaire devient extraordinaire. Et aussi, quand tu vois la vie de Christ... Même sa souffrance était embellie par la lumière de vie. Même sa souffrance, même la croix. Et il y a une super belle parole, si vous oubliez tout le reste, mais une super belle parole, qui est encore dans Jean, le début de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, verset 5. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres. Où la lumière brille dans les ténèbres. Tu sais, le monde n'est pas parfait. Ta vie n'est pas parfaite. Mais la grâce est encore plus forte dans les ténèbres. C'est pour ce son et lumière à Amiens, on devait attendre 10 heures pour qu'il fasse nuit. Quelquefois, je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils attendent d'être dans les ténèbres avant de faire un son et lumière avec Dieu. Mais même si vous êtes dans les ténèbres, quelle opportunité de lumière! Parce que la lumière va briller encore plus forte dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point, on peut dire reçu, ou on peut dire mieux, et les ténèbres neuves ne peuvent pas l'atteindre, ou ne peuvent pas la vaincre. Encore parole à recevoir.
Il a fallu longtemps pour comprendre cette chose-là.
Amen.
C'est utile pour moi.
Amen. Et donc c'est bien, merci Odette, hein, la lumière de Dieu ne peut pas être vaincue par les ténèbres. Écoute maintenant, elle brille dans l'obscur. Elle brille dans l'obscur. Et cette phrase, c'est une affirmation que le plus ténébreux de nous-mêmes ne viendra jamais à bout de la lumière. C'est le péché ne va pas vous vaincre. Les ténèbres ne vont pas vous vaincre. L'étincelle ne sera jamais ternie par le poids de nos cendres. L'étincelle ne sera jamais ternie par le poids de nos cendres, par le poids de notre passé et tout le reste. Le mal ne l'emportera pas. Alléluia. Le mal ne l'emportera pas. Et donc, pour terminer, laissez la lumière de Dieu. Laissez la lumière de Dieu. Vérité de l'Évangile briller dans votre cœur ce matin. Hein, laissez. Laissez cette lumière. Une nouvelle révélation de sagesse. Révélation. Là. Que les yeux de votre cœur s'illuminent maintenant. Et encore, je termine avec encore 2 citations de 2 Corinthiens. Chapitre 3 et 4, hein, j'ai juste des versets là. Car Dieu, je reviens au départ, hein, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Amen. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et c'est comme si ton cœur doit avoir une face-à-face avec Jésus. Et quand ton cœur, là, a une face-à-face avec Jésus, pas juste ici avec la tête, mais ton cœur est face-à-face avec Jésus, tu vois briller la gloire de Dieu sur le visage de Jésus. Et la gloire de Dieu sur le visage de Christ, tout près de ton cœur, ça remplit ton propre cœur de lumière. Alléluia. Il y a une sorte de miroir permanente, là. Je vois Christ, la gloire, 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 gloire. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là, il y a la liberté. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Waouh! Cette espérance de voir Jésus tel qu'il est, dans toute sa grandeur, dans toute sa beauté, dans toute sa lumière, dans toute sa résurrection, cette espérance nous attend. Et nous sommes transformés par cette espérance, transformés par la lumière. Et donc je vais prier maintenant, mais cette prière, c'est comme si je vais faire clic avec le sang et lumière. Voilà, on a attendu, ah, moi j'ai attendu 3 quarts d'heure, hein, j'étais un peu énervé. Et donc peut-être vous avez dû subir une prédication, mais maintenant c'est le moment d'activité. On va activer le sang et lumière. Vous allez vivre toute une semaine émerveillée par cette projection de lumière, par l'évangile, par la beauté de Jésus, la grâce, le pardon. Et ces vieilles pierres, toutes usées par le temps, vont être embellies. Ces cœurs tellement blessés par la vie, ces cœurs tellement usés, vont être embellis par la grâce, la lumière de Jésus-Christ. D'accord ? Je vais allumer, et vous n'avez qu'à dire un petit amen pour que le programme commence. Et finalement, ça ne dure pas que juste une semaine, ça dure pour toute l'éternité. Alléluia. Seigneur, je désire que tu fasses un sang et lumière dans mon cœur ce matin. Seigneur, peut-être mon cœur est comme cette vieille cathédrale. Seigneur, qui est là érigée depuis longtemps. J'ai ma vie érigée depuis longtemps avec mes habitudes. Seigneur, j'ai ce qui est usé, j'ai ce qui est cassé. Seigneur, mais ce matin, je veux que ta lumière brille sur moi. J'accueille ta lumière. Seigneur, j'ouvre le rideau. Seigneur, j'ouvre le rideau. Et je te demande, Seigneur, j'accueille ta lumière dans mon cœur. J'accueille la lumière de la parole. J'accueille la lumière de l'Esprit, la vérité de l'Esprit. Et j'accueille, Seigneur Jésus-Christ, dans mon cœur ce matin. Et Seigneur, si je t'ai déjà accueilli combien de fois, mais je t'accueille de nouveau. Que tu m'embellisses, Seigneur. Et Seigneur, maintenant, c'est vrai, avec mon amen, je vais déclencher le Seigneur l'interrupteur. Et je vais pousser le bouton. Voilà, que cette lumière commence à se projeter sur moi, Seigneur, sur mon cœur. Et donc, Seigneur, oui, je le veux. Je t'accueille, Jésus, mort pour moi, ressuscité dans la gloire. Seigneur, toi qui me pardonnes, toi qui m'embellis par la grâce. Oh, Seigneur. Seigneur, je choisis de l'espérance. Je choisis de vivre dans l'espérance ce matin. Par la foi, je t'accueille. Au nom de Jésus. Amen.